BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transformation climatique. Aujourd'hui, nous serons à Annecy, chez Arval, un des leaders des produits de sécurité en montagne. La marque est une référence, mais quel est son avenir avec la disparition de la neige dans la plupart des stations ski? Notre reporter Philippine Dolbo est sur place et notre expert viendra en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons café en deuxième partie d'émission, comment changer et adapter les modèles d'affaires de la filière. On en parlera avec deux dirigeants qui font bouger le secteur, Alexandre Bélanger de Belco et Jean-Pierre Blanc de Malongo. Et on terminera l'émission, comme toujours, avec le journal du climat d'Antoine Poincaré. Son regard tranché, incisif sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc, je vous le disais, à Annecy, chez Arval, l'un des leaders des produits de sécurité en montagne. Sauf que quand la neige est vouée à disparaître à moyen terme, c'est tout un business model qu'il faut transformer. Philippine Dolbo est sur place avec les équipes d'Arval.
Aujourd'hui, direction les montagnes. Arva, spécialiste de la sécurité en milieu alpin, est une marque bien connue des amateurs de sports d'hiver. Mais face au double défi de la transition écologique et du réchauffement climatique, l'entreprise doit réinventer ses produits, son marché et puis bien sûr son futur aussi. Décarboner ses équipements, adapter son modèle économique et participer par exemple à des projets régénératifs pour la planète. Voilà les trois défis majeurs d'Arva aujourd'hui. Et je vous emmène justement au cœur de cette transition. Premier défi pour Arva, décarboner ses produits. Aujourd'hui, les matières premières utilisées représentent 60% des émissions de carbone de l'entreprise. Aluminium, plastique dérivé du pétrole, composants électroniques. Pour l'instant, aucune alternative réellement décarbonée n'existe à grande échelle. Le défi pour Arva est donc colossal. Comment continuer à produire des équipements de sécurité tout en réduisant leur empreinte carbone? C'est justement tout l'enjeu des recherches en cours.
On s'est rendu compte, en faisant les analyses de cycle de vie des produits, on s'est rendu compte que c'était notamment le traitement de surface qui impactait beaucoup, pas seulement l'aluminium, mais le traitement qu'on appliquait dessus. Donc on est en train de faire des recherches pour trouver des substituts, mais c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le marché, il n'y a pas grand-chose de mieux que l'aluminium à ce jour. Pour les pelles, l'autre difficulté qu'on a, c'est aussi d'essayer de trouver des produits producteurs d'aluminium qui soient un peu plus vertueux, qui auraient une intensité carbone plus faible. Aujourd'hui, l'aluminium est fabriqué en Pologne. Passer sur des produits comme la Norvège ou la France demande tout un travail sur l'approvisionnement, sur la chaîne de supply qui n'est pas toujours évident à mettre en place, ça prend du temps, mais c'est des choses qu'on envisage.
Bonjour Patrick Giraudon.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis chez vous, enfin dans votre entreprise, sur le terrain, à Annecy. Vous êtes le patron d'Arva et vous nous avez rejoint ici à Paris, à moins de montagne. Mais enfin, on est là en tout cas pour vous aider. C'est Maximilien Rouet de Mazars qui va s'en charger aujourd'hui. Bonjour Maximilien.
Bonjour Thomas.
On rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous pouvez aider Patrick Giraudon à décarboner sa produit? Il veut décarboner, il veut avancer, mais il a du mal. C'est quoi vos solutions?
Les solutions, on les connaît en fait, et même vous les connaissez. La Norvège, la France aujourd'hui ont des capacités de production d'aluminium décarboné. Qu'on soit très concret, Aluminium Dunkerque, qui est le premier producteur d'aluminium en France, c'est en moyenne 4 fois moins d'émissions de CO2 par tonne d'aluminium que la moyenne mondiale. Par exemple, effectivement, comme disait votre équipe, ça veut dire revoir la supply, mais ça existe. Ou sinon, il l'a dit aussi, c'est en Norvège, c'est Hydro, leader mondial de l'aluminium décarboné. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'énergie en France, elle est nucléaire, donc décarbonée, et en Norvège, elle est hydro, comme le nom de la marque, elle est hydraulique. Et donc, c'est pas en brûlant du charbon qu'on va produire l'aluminium, alors qu'effectivement, en Pologne, c'est souvent en brûlant du charbon qu'on produit l'aluminium. Et du coup, vous avez déjà les clés, vous les connaissez.
Ouais, mais alors, Patrick Giraudon, pardon, le sujet, c'est quoi? C'est le coût? C'est le prix? C'est plus cher d'aller se sourcer en France ou en Norvège?
La difficulté, c'est qu'on est dans des marchés de niche. Aujourd'hui, on doit vendre, peut-être, c'est pas un grand secret, 40 000 pelles. Ouais. 40 000 pelles, c'est peut-être 10 tonnes d'aluminium par an, pas plus.
D'accord.
Donc, il faut que ces grandes structures acceptent de nous fournir. Pour eux, c'est limite de l'échantillonnage. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est de la promotion commerciale pour dire on fournit Arva, qui est une marque internationale.
Bah oui, une belle marque.
Mais c'est complexe parce qu'on est une petite société. Même si on va en 35 pays dans le monde, on fabrique en France, on reste une petite boîte.
Bon. Aluminium Dunkerque, vous nous regardez, là pour le coup, vous avez le choix, il faut équiper Arva, ils veulent faire, il faut que vous leur ouvriez leur porte.
Merci.
On retourne sur une place avec Philippine, parce qu'évidemment, là on a parlé de décarbonation, mais le gros sujet pour vous, c'est de vous adapter au changement climatique.
Deuxième défi, réinventer son modèle économique. Arva doit non seulement s'adapter à un futur sans neige, mais aussi travailler sur la durabilité de ses produits. Et ça, ça passe par le développement de solutions de recyclage, la conception de produits plus robustes et réparables, et par une réflexion sur son modèle serviciel. Réparer, réutiliser, voilà autant d'axes hein, pour transformer son business model et répondre bien sûr aux nouvelles attentes des consommateurs, tout en réduisant bien sûr aussi son impact environnemental.
On a souhaité étendre la durée de vie des produits, donc c'est aussi un peu l'essence même de notre métier, c'est d'essayer de faire les produits les plus durables possibles. La problématique qu'on a, c'est que je fais souvent l'analogie, on fait pas des télécommandes de télévision, on peut pas se permettre que le produit tombe en panne au moment critique où on doit aller sauver son copain sous l'avalanche. Donc on peut pas non plus étendre la durée de vie trop longtemps, on a certaines contraintes techniques, mais on a quand même pu augmenter la réparation à 10 ans et la durée de révision à 15 ans.
Bon, Maximilien, on a déjà parlé de ce sujet, hein, d'ailleurs, d'augmenter la durée de vie des produits. Évidemment, c'est un levier de décarbonation. On produit moins, on émet moins. Mais la question fondamentale, et je vais vous la poser aussi, évidemment, c'est la durée de vie de l'entreprise Arva tout court. C'est quoi l'avenir d'Arva dans 20 ans?
Alors, s'il n'y a plus de neige. Deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, effectivement, Thomas, vous avez raison. En France, selon les départements, on a moins 30 à moins 90% de journées d'enneigement depuis 1958. Donc là, c'est du concret. Et si on continue les courbes, on peut s'inquiéter. Et en fait, non, parce que quand vous êtes Arva, vous êtes un acteur de l'urgence. Vous sauvez des vies dans l'urgence. Et dans un monde qui brûle, le monde dans lequel on va, il y a fort à parier qu'on ait besoin de beaucoup d'urgence, donc de pas mal d'Arva.
Patrick Jourdon, est-ce que vous avez intégré ça? Est-ce que vous êtes en train de faire la bascule de votre entreprise?
Oui, il y a effectivement des éléments de réponse. Le premier, je suis tout à fait d'accord avec vous, on va vers un monde qui va être extrême. Beaucoup de neige, d'un coup beaucoup de réchauffement, beaucoup de risques, donc peut-être malheureusement beaucoup d'accidents. Nos produits seront là pour être le dernier rempart. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'on cherche demain à sortir de l'avalanche. On essaie de racheter des startups, d'essayer des technologies pour demain que ce soit de la recherche annualisée de personnes et pas seulement des avalanches.
D'accord.
Et la troisième chose, c'est qu'on a bien sûr conscience de ça déjà depuis 15 ans. Et le groupe aujourd'hui, on réalise 50% de notre CA l'été sur des marques qu'on importe. D'accord. Et 50% l'hiver sur la marque Arva. Donc on est en train de chercher des croissances externes pour que le groupe bascule à 80% sur l'été.
D'accord. Ah oui, donc vous avez déjà quand même diversifié.
Tout à fait.
Votre business. Vous êtes à 50-50 déjà été-hiver.
Exactement.
Mais donc au fond, finalement, votre business, au-delà de l'avalanche, au-delà de la neige, c'est la mise en sécurité des personnes. C'est ça, en fait, l'avenir d'Arva.
Exactement. L'avenir d'Arva, il est là. C'est demain de développer des systèmes de mise en sécurité de personnes ou de détection de personnes quand elles seront dans une situation, malheureusement, où elles auront besoin de secours.
Et pour toutes les pratiques sportives?
Exactement.
J'imagine pour tout l'outdoor, tout le...
Ou au-delà, imaginons Valence, imaginons Los Angeles.
Ouais, c'est vrai, donc, pas que le sport.
Voilà, on a des gens qui sont en situation de crise, en situation d'urgence.
Okay.
Le téléphone, il tombe en rade au bout de 24 heures. Ouais. Arva, ça tient 3 mois.
Ouais, voilà. L'objectif, c'est ça.
Donc ouais, on a une capacité.
Donc malheureusement, avec le climat qui s'annonce, il y a un boulevard devant vous quand même.
Exactement.
Juste faire pivoter la boîte. On va parler d'un dernier point, on va retourner une dernière fois sur le terrain avec Philippine pour parler d'économie régénérative.
Troisième défi pour Arva, investir dans des projets régénératifs. Produire des équipements de sécurité implique forcément d'extraire des ressources. Aujourd'hui, le modèle est extractif, mais l'entreprise veut aller encore plus loin en finançant des projets qui compensent justement cet impact. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas encore quel projet soutenir, ni comment vraiment les intégrer à son développement. Alors, comment transformer justement une industrie basée sur l'extraction en un modèle plus vertueux? C'est l'une des questions majeures pour Arva.
Notre objectif, c'est régénérer les territoires. Trouver des projets à impact pour investir en direct sur des projets à impact. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous a permis aussi de faire un bon onboarding de toute la société, parce qu'on a fait un appel à projets internes, et on a dit qui est intéressé pour travailler pour cette fondation. Et on a eu le plaisir de voir que quasiment 40% de la boîte a levé la main pour faire partie soit d'un comité de pilotage pour sectionner les projets, soit du conseil d'administration pour voter définitivement les sommes allouées. Notre objectif demain, vu qu'on n'a pas une entreprise qui est directement liée au vivant, c'est d'avoir des projets régénératifs pour agir immédiatement. Parce que je suis père de deux enfants en bas âge et j'ai pas envie qu'ils se souviennent de moi seulement d'avoir réussi dans une société qui sauve la vie des gens par les produits. Mais je veux qu'on engage notre structure dans la mission de régénérer ce qu'on détruit par notre activité économique.
Alors Maximilien, c'est très intéressant, je trouve, ce que dit Patrick. Il veut se lancer dans le régénératif. Mais il ne sait pas concrètement sur quel projet avancer. Oui, quel conseil vous avez ?
Déjà, premier élément, je salue l'initiative de Patrick, qui n'est pas si commune, même si il y a un raz-de-marée qu'on commence à mesurer par les patrons visionnaires et responsables. Merci. Merci Patrick. Déjà, régénératif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire commencer à positiver son impact sur les questions de carbone, sur les questions de biodiversité, d'énergie, de ressources, d'eau. Et ça veut dire quoi, positiver ? Ça veut dire que pour chaque Arva vendu, pour chaque pelle vendue, pour chaque sac à dos airbag vendu, finalement, on pourrait se dire, OK, ça va permettre de stocker tant de kilos de CO2, ça va permettre de restaurer tant d'espèces vivantes, ça va permettre de produire, de dépolluer l'air, de dépolluer le sol. Ça devient très concret. C'est pas conceptuel, régénératif. On est concrètement dans des KPI, comme on dit, dans des indicateurs de mesures environnementales qui vont objectiver la contribution nette positive régénérative du groupe Arva à travers ses produits et à travers les projets qu'il va pouvoir monter grâce à ses produits. Parce qu'on l'a vu, effectivement, la limite, entre guillemets, d'Arva, c'est que c'est pas directement lié à la plante, lié au vivant. Voilà. Donc, c'est très mécanique, c'est très froid, c'est de l'aluminium, du plastique. Ça sauve des vies, c'est indispensable, mais c'est de l'aluminium et du plastique. Et donc, l'astuce que vous avez inventée, c'est de dire, je vais faire une fondation pour créer des projets à côté de moi. Et il y a aussi une possibilité qu'on fait par ailleurs, qui est de mettre en place sur les sites industriels des projets de régénération. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous avez un site, vous produisez, mais vous avez un parking, vous avez une toiture, vous avez une façade. Et là-dessus, on peut équiper avec des solutions basées sur le vivant pour que là aussi, on raconte une histoire.
Patrick Giraudon ? Vous produisez dans le Jura, si j'ai pas de bêtises.
Alors oui,
donc ça pourrait être là, du coup, vous mettez en place ce type de projet.
Effectivement, les DVA sont développés à Annecy Grenoble, injectés dans le Jura, assemblés dans les Vosges. Les sacs airbags en France, vallée de l'Arve autour d'Annecy. Avant, on achetait on compensait notre carbone. Et on pensait que c'était une bonne idée avant la COC d'aller acheter du crédit carbone à une société qui est utilisée dans le milieu du sport. On achetait des tonnes de carbone entre 20 et 100 euros, mais sur des projets très éloignés. L'objectif de la fondation, c'est d'être très concret, justement, d'avoir des KPI, d'onboarder les équipes et de regarder où on met notre argent et où est-ce qu'on peut avoir un impact positif sur demain.
Bon, et on va suivre tout ça très près. Merci à tous les deux. C'était extrêmement concret, hyper intéressant. Patrick Giraudon, PDG d'Arva, et Maximilien Rouet chez Mazars. Merci à tous les deux. On a parlé de montagne dans ce Face au Climat. Maintenant, on va parler de café. On change de territoire. Comment adapter la filière du café au changement climatique ? Que faut-il changer au modèle d'affaires pour intégrer les limites planétaires ? On en parle avec deux dirigeants d'entreprise qui font bouger le secteur. Bonjour Jean-Pierre Blanc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes le directeur général des cafés Malongo. Et avec vous, Alexandre Bélanger, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président cofondateur de Belco. Alexandre Bélanger, je commence avec vous. Expliquez-nous concrètement ce que vous avez intégré votre entreprise, dans votre entreprise, dans votre modèle d'affaires pour vous adapter au climat.
Oui, la question est large, mais je dirais que face aux limites planétaires, on a globalement trois enjeux très importants. Des enjeux de production, dans un contexte où on risque de perdre à peu près 50% des surfaces cultivées. Des enjeux de mise en conformité avec la réglementation. Je rappelle les sujets notamment de loi contre la déforestation. Mmh. Et puis des enjeux de consommation, parce qu'on doit maintenir la désirabilité de la consommation de nos produits dans un contexte où l'éco-anxiété se développe de plus en plus.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place ?
Intéressant, sur ce dernier point, c'est-à-dire que il y a un espèce de climat bashing autour du café ? Un effet anti-climat autour de la consommation ?
Non,
c'est quelque
chose
que vous anticipez pour la suite ?
C'est quelque chose qu'on anticipe, évidemment.
Okay. Un peu comme la viande aujourd'hui, par exemple.
Il y a des signaux faibles.
Okay.
Et donc tout le sujet, c'est à partir du moment où il est possible de construire une filière vertueuse dans le café, eh bien faisons-le savoir, construisons-la, faisons-le savoir pour éviter qu'il y ait des problèmes de consommation à l'avenir et qu'on continue à soutenir notre filière.
Jean-Pierre Blanc, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que décrit Alexandre Bélanger ?
Oui, bien sûr. Moi, mes enjeux principaux et je pense que on le montre depuis de nombreuses années, c'est d'une part la déforestation qui est un enjeu majeur que l'on voit dans beaucoup de territoires, donc en Amérique centrale, en Afrique et en Asie.
Ouais.
Donc
là où vous approvisionnez en l'occurrence.
C'est un enjeu majeur, c'est-à-dire que il faut pas déforester pour planter du café, il faut organiser des filières. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu.
C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Faire cohabiter ensemble. Les forêts et la pratique agricole.
Voilà, et l'agroforesterie avec les pratiques agricoles. Et j'y viens sur la partie notamment agriculture biologique, puisque on ne fait pas un modèle économique si on ne tient pas compte de toutes les problématiques. C'est-à-dire la forêt, il faut que vous la replantiez, il faut que là vous mettez en place pour pouvoir produire vos pieds de café qui soient bien utilisés avec du compost, du bio, des bio fertilisants et également toutes les techniques agricoles que l'on a mis en place et que l'on continue à mettre en place dans les coopératives. Donc ce sont deux éléments clés que l'on fait depuis maintenant 32 ans, puisque donc voilà, j'ai pas entendu le dérèglement du climat pour m'en occuper. Commerce équitable, ça vous parle, ça vous dit quelque chose?
Évidemment,
32 ans, on a démarré au Mexique. Maintenant, aujourd'hui, on a à peu près 26 coopératives. Mmh. On fait vivre à peu près 10 000 familles. On a organisé à la fois, et on en a pas parlé, mais c'est aussi un enjeu de demain pour le futur. C'est la partie perte des jeunes générations qui ne veulent plus cultiver de café parce qu'ils veulent aller dans les villes, etc. Donc, il y en a une perte de... Donc, il faut mettre du revenu. Et du revenu, c'est le prix minimum garanti. Ouais. C'est de l'agriculture bio. C'est revenir dans un monde moderne avec une agriculture qui est une agriculture paysanne, parce que le café, c'est un produit agricole.
Ouais. Alexandre Bélanger, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le premier risque que vous avez cité, c'est la production. Vous dites que 50% les terres exploitables sont condamnées à disparaître, enfin en tout cas présentent le risque. Là aussi, comment vous adaptez à ça? C'est colossal.
Si on maintient l'agriculture telle qu'elle est actuellement. Donc comment on s'adapte à ça? On s'adapte, en tout cas chez Belco, la solution qu'on a trouvée, c'est d'abord de déployer des équipes sur le terrain. Donc on a construit, on a développé des entreprises qui sont totalement indépendantes de Belco d'un point de vue de la gouvernance.
D'accord.
Et on a développé des équipes pour garantir la traçabilité, pouvoir agir au plus proche des producteurs, mmh, et également, d'ailleurs, ça c'est un point qui est assez intéressant, développer aussi les marchés locaux pour diminuer le risque de dépendance à l'exportation des producteurs, ce qui est un vrai sujet, en fait, sur lequel on doit pouvoir travailler. Et au-delà de ça...
Donc vous avez structuré vos fournisseurs, en fait.
On a
accompagné.
En tout cas, on accompagne, on monte des équipes qui sont capables de garantir la traçabilité, de supporter les producteurs et de développer des projets sur place qui permettent de faire évoluer l'agriculture vers un modèle plus vertueux. Et également, on a intégré des fonctions, la fonction notamment de transition agricole chez Belco, qui définit des plans de développement de l'agriculture au niveau local, et qui accompagne du point de vue de la formation. Donc c'est une ferme-école montée au Salvador, un modèle, en 2024, hein, pour accueillir les producteurs et les former. Une plateforme d'information pour donner du contenu aux producteurs autour de l'agroécologie, de développement de pratiques agroécologiques. C'est également des moyens de financement et des moyens de valorisation. Voilà. Donc c'est à la fois des outils, des sociétés sur place qui peuvent accompagner, mais aussi une stratégie avec un plan de transition agricole.
Il y a la question de la production.
Je rebondis parce que c'est intéressant. En fait, on travaille, nous, sous forme de coopérative complètement indépendante, bien entendu, au niveau de la gouvernance et sur des contrats à long terme. Et parce que chaque paysan, en fait, à un hectare et demi. Donc, vous ne vivez pas avec un hectare de café. Si vous le cultivez au fin fond de la Pampa, il faut y aller, il faut aller le ramener. Et donc, on organise en coopérative pour que 100 familles, 150 familles puissent s'organiser avec des primes de développement et puissent avoir des revenus sur le café, qui est le revenu principal, et des revenus complémentaires, parce que la coopérative, je viens d'installer il y a 2 mois au Nord-Laos, dans une coopérative, un petit torréfacteur, pour qu'il puisse vendre en local le produit qu'il cultive avec une marge brute, disons, qui complète. Parce que le système ne fonctionne que si on assure un revenu, si on assure toute la formation, et tu l'as très bien dit sur l'organisation des agricoles. Nous, on a monté il y a 10 ans un centre de formation au Mexique, sur des pratiques paysannes de café, et on fait aujourd'hui de l'échange de savoir, c'est-à-dire j'envoie des paysans, par exemple, du Mexique, je les envoie au Laos, ou je les envoie en Birmanie, pour échanger sur le terrain, et non pas avec uniquement que des techniques théoriques, pour justement développer cette agriculture agricole biologique, développer une agriculture vivrière, parce que ça, c'est le deuxième volet qui est extrêmement important. On monte des jardins potagers, un certain nombre de choses, qui permet à un écosystème de fonctionner. Si vous ne créez pas un écosystème avec, à la base, des paysans qui travaillent, des jeunes qui vont prendre la relève, des arbres de couverture, du développement économique sur zone, vous allez détruire une partie de cette ceinture en fait intertropicale sur laquelle il y a le café. Et là, comme tu disais justement, il nous manquera du café à terme.
Un autre point fondamental, évidemment, c'est le coût des matières premières. Le changement climatique fait flamber les coûts. Le café n'y échappe pas. Là aussi, comment est-ce qu'on gère ça quand on est d'une entreprise du secteur?
Il y a un vrai sujet de toute manière sur le financement. Le problématique du coût, en fait, c'est aussi de savoir comment est répartie la valeur ajoutée dans la filière. Est-ce que le café aujourd'hui est à un prix qui est juste et qui permet une rémunération équitable et bien partagée entre l'ensemble des producteurs? Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est quel est le vrai prix du café? Quel est le prix qui permettra de pouvoir maintenir une consommation épanouie, et d'un autre côté, financer la transition agricole dont on vient de parler. Oui, le prix du café monte. Mon point de vue, c'est que dans les prochaines années, de toute manière, la tendance sera, de toute manière, ira vers un prix de café plus cher. Et il me semble qu'il n'est pas forcément nécessaire de continuer à consommer autant de café, qu'on peut peut-être en consommer un petit peu moins, choisir de consommer des cafés qui soient des cafés meilleurs d'un point de vue du goût, mais aussi d'un point de vue de projet qu'il y a derrière pour pouvoir financer la transformation agricole.
Intéressant. Ouais, on reprend les modes de consommation. Oui, mais Jean-Pierre Blanc.
Oui, on met sur le dérèglement climatique beaucoup de choses. Effectivement, il y a toujours des indices physiques qui font que les cours peuvent varier d'une façon importante. Là, on se trouve dans une situation où il faut regarder plutôt du côté des traders, puisque le café, c'est un produit qui se vend sur la bourse de New York et sur la bourse de Londres. Et regardez les profits qu'ont fait les traders cette année. Je veux dire, le café n'est pas assez payé. Mais aujourd'hui, c'est pas les producteurs qui gagnent cet argent-là, parce que au moment de la récolte, ça pose des problèmes techniques, ces cours qui varient, etc. Donc c'est un marché qui est mal fait. Le café n'est pas assez payé cher, là, je suis d'accord avec toi, mais c'est un marché qui est tenu aujourd'hui par la spéculation financière, et c'est là on détruit de la valeur dans toute la chaîne autour de cette ceinture tropicale. Et moi, je suis inquiet justement de ça. Au lieu de payer un bon prix, de payer des primes de développement, et bien là on est en train de saccager en montant, parce que demain ou après-demain ou dans un mois, vous verrez, le marché retombera comme ça l'a fait les dernières fois. Donc posons-nous la question, qu'est-ce que l'on veut pour le futur pour le café, et organisons-nous pour que ça fonctionne bien avec les producteurs.
Bon. Le vrai sujet, c'est la confiance du consommateur. Et pour ça, il y a un moyen, c'est la transparence. Donc, demandons, exigeons la transparence des prix dans la filière, de telle sorte à restaurer la confiance des consommateurs sur ce que doit être le vrai prix du café.
Bon, eh ben le message est passé, hein, il est on ne peut plus clair. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Bélanger chez Belco et Jean-Pierre Blanc chez Malongo, pour vos conseils et vos partages d'expérience. Allez, on passe au journal du climat d'Antoine Poincaré. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. Antoine, on commence votre journal cette semaine avec cette grande enquête internationale publiée il y a quelques jours sur les polluants éternels.
Oui, c'est une enquête journalistique titanesque, 46 journalistes dans 29 médias européens différents. L'objet de cette enquête, les PFAS, qu'on appelle aussi les polluants éternels parce qu'ils ne se dissolvent pas naturellement dans l'atmosphère. Le problème des PFAS, c'est bien que c'est extrêmement utile à l'industrie. On en retrouve partout. Il y en a dans les vernis, il y en a dans le Gore-Tex, il y en a dans les mousses anti-incendie, dans les adhésifs, dans les peintures. L'enquête, elle a identifié en Europe plus de 2000 hotspots différents, c'est-à-dire des endroits où la concentration en PFAS dans le sol et dans l'eau dépasse les seuils dangereux pour la santé, parfois d'un facteur 100. Il y a un endroit qui retient particulièrement l'attention, la ville de Zwijndrecht. C'est dans la banlieue d'Anvers, en Belgique. Et là-bas, il y a une usine de l'américain 3M qui, de 1976 à 2002, a produit un PFAS particulier qui a littéralement empoisonné l'environnement. Ça ressemble à un mauvais film de science-fiction. Les riverains, on leur propose de retirer 70 cm de leur jardin pour les remplacer par de la nouvelle terre. Évidemment, on ne peut pas manger des légumes qui poussent là-bas, encore moins des œufs de poules qui vivraient là-bas. Pour les enfants, on leur recommande de ne pas sortir jouer dehors par temps sec. Et si vous allez un tout petit peu plus loin, au bord de la mer, eh bien la recommandation des autorités, c'est en rentrant de prendre une douche, parce que des PFAS, on en trouve même dans les embruns. Ça paraît surréaliste, c'est ce qui se passe dans plus de 2000 endroits en Europe. Le plus dingue là-dedans, c'est qu'on n'a toujours pas la liste des usines qui ont produit ou produisent encore des PFAS. On doit donc s'appuyer sur ces enquêtes qui nous permettent de découvrir l'ampleur du scandale.
Bon, on se croirait dans un mauvais remake de Tchernobyl. On part maintenant aux États-Unis où vous nous parlez, Antoine, d'une start-up californienne, Living Carbon, qui plante des arbres génétiquement modifiés pour lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, on en a parlé ici il y a quelques semaines. Les forêts captent de moins en moins de carbone. Alors, il existe des gens qui cherchent des solutions, et notamment ces arbres génétiquement modifiés. Alors, comment ça marche? Un arbre normal, eh bien, en réalité, vous le savez, ça capte du CO2 par la photosynthèse pendant la journée, mais la nuit, ça respire comme nous, donc ça rejette une partie de ce CO2. Living Carbon, ce qu'ils font, c'est qu'ils modifient un certain nombre de gènes pour ralentir ce mécanisme. Pour ça, ils ont trouvé des gènes de citrouilles et d'algues qu'ils mettent dans les peupliers. Au passage, ils transforment ces arbres pour qu'ils soient plus résistants aux insecticides et aux maladies. Et du coup, ça vous fait des super peupliers qui captent 27% de carbone. En plus, ils déclarent en avoir planté 10 000 jusqu'à maintenant. Évidemment, tout ça n'est pas sans risque. Il y en a deux principaux. D'abord, comme souvent avec les OGM, eh ben, les pollens d'arbres peuvent parcourir des milliers de kilomètres et essaimer ces nouveaux arbres OGM à d'autres endroits. Et puis, le second problème, c'est l'uniformité génétique. Si une maladie venait à attaquer ces arbres qui ont des génomes très, très, très similaires, eh bien, elle pourrait décimer très rapidement des pans d'arbres entiers. Une solution donc à étudier, mais qui n'est pas sans risque.
Et pour finir, Antoine, retour en France, vous nous parlez de nouveaux cas de déplacés climatiques.
Oui, on en avait beaucoup parlé il y a un an, l'impasse Roger Salengro à Blandec, avec cette quinzaine de maisons sur un tout petit îlot au milieu du fleuve A, les maisons avaient été rachetées par l'État, une quinzaine de maisons pour être rasées. Et bien depuis, ça continue. Il y a un deuxième endroit à Trefiaga, c'est tout près du Guilvinec, dans le pays Bigoudin, où là, pareil, 8 maisons de bord de mer ont été rachetées. Elles sont juste derrière une dune et la communauté de communes devait investir 100 000 euros par an pour renforcer la dune et protéger ses maisons. Le maire dit que c'est maintenant un pansement sur une jambe de bois. Ils arrêtent. On a donc racheté les 7 premières maisons au prix du marché, hein, entre 300 000 et 700 000 euros, pour les rendre à la nature. Les 8 suivantes vont suivre. L'idée après, c'est de fabriquer ici une digue qui protégera les maisons encore derrière. Et puis, il y a un autre exemple dans la Manche, les tout premiers réfugiés climatiques, ça a été raconté par nos confrères de BFM TV. On est dans le petit village de Montmartin-sur-Mer, un couple d'agriculteurs qui cherchaient un projet de relocalisation depuis 5 ans. Ça y est, c'est fait. À nouveau, l'État rachète leur maison et eux, ils vont refaire leur vie ailleurs. Évidemment, c'est des cas qui sont toujours très durs à vivre émotionnellement pour les gens qui sont déplacés. Mais, in fine, il faut qu'on se pose la question de la soutenabilité de ce système. Pendant combien de temps est-ce que l'État va pouvoir racheter, même avec le fonds Barnier, dont on sait qu'il n'est pas sans fin, les maisons au prix du marché pour finalement les détruire? Malheureusement, personne n'a encore la réponse.
Même si le budget du fonds Barnier a été un petit peu rehaussé dans ce budget. C'est l'une des rares victoires écologiques du budget 2025. Merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la Convention des entreprises pour le climat pour son aide précieuse, comme toujours, dans la préparation de cette émission. À la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.